Là-dessus, je vous souhaite un beau printemps malgré tout, François Larochelle.
Bien, merci beaucoup, vous aussi.
Merci beaucoup. Ancien diplomate canadien, aujourd'hui, vous allez nous parler de la Syrie qui s'est libérée de la dictature de Bachar al-Assad depuis près de 4 mois. Les développements dans ce pays se succèdent assez rapidement. Certains ont été négatifs, mais d'autres porteurs d'espoir. Par contre, il faudra que ces dirigeants puissent compter sur la coopération et l'aide à l'étranger, ce qui n'est pas évident dans le contexte mondial actuel.
D'abord, malheureusement, le côté sombre. Il a commencé le jeudi 6 mars avec une attaque contre les forces de sécurité du nouveau gouvernement syrien. Cette attaque a été menée par des miliciens alaouites restés fidèles à l'ancien dictateur al-Assad. Les représailles qui ont suivi ont été particulièrement sanglantes. Elles auraient fait plus de 1300 morts. On rapporte des massacres de civils et des exécutions sommaires qui auraient été commises par des factions islamistes radicales et des djihadistes étrangers au sein des forces gouvernementales. Le président syrien par intérim, Ahmed al-Shara, a réagi en promettant de trouver les coupables et de les punir. Il a d'ailleurs mis en place une commission d'enquête incluant des alaouites, mais on verra qu'est-ce que tout cela va donner.
Bon, mais il y a une bonne nouvelle qui a suivi quelques jours après ces événements-là, l'annonce d'un accord avec la minorité kurde.
Oui, en effet. Cet accord de principe prévoit d'intégrer au sein de l'État syrien toutes les institutions civiles et militaires relevant de l'administration autonome kurde. Ici, je voudrais faire un petit rappel historique. Pendant la guerre civile en Syrie qui avait commencé en 2011, les Kurdes ont mis en place une administration autonome dans le nord-est du pays, qui est leur région, avec leurs propres institutions éducatives, sociales et militaires. Les Kurdes contrôlent d'ailleurs depuis ce temps de vastes territoires qui sont riches en blé, en pétrole et en gaz, des ressources qui sont cruciales pour les autorités de Damas. Les détails de l'accord de principe doivent être négociés, finalisés, mais on y vise justement le partage des revenus de la production pétrolière et gazière. La communauté kurde se voit garantir son droit à la citoyenneté et à l'ensemble de ses droits constitutionnels, notamment culturels et linguistiques. Marginalisés et réprimés sous le régime de la famille al-Assad, les Kurdes ont été privés pendant des décennies du droit de parler leur langue, de célébrer leurs fêtes et pour un grand nombre d'entre eux, ils ne pouvaient obtenir la citoyenneté syrienne.
Et puis la semaine dernière, le pouvoir à Damas a répondu aux demandes d'ouverture et d'inclusivité des minorités et des acteurs de la société civile avec une déclaration constitutionnelle issue d'un dialogue national.
Jeudi dernier, le 13 mars, une déclaration constitutionnelle a donc été émise pour assurer la transition qui va mener à la rédaction d'une véritable constitution et à l'organisation d'élections dans 5 ans. La déclaration établit que le président doit être un musulman. Elle garantit la liberté de croyance des 3 monothéismes ainsi que les droits culturels et linguistiques de tous les Syriens. Elle établit l'égalité des droits de tous les citoyens syriens et cela comprend la liberté d'opinion, d'expression et de la presse, ainsi que les droits des femmes. Elle introduit le pluralisme politique et entérime l'indépendance de la justice. Parallèlement, cependant, le texte crée une présidence forte, sans doute nécessaire pour asseoir son autorité sur l'ensemble du pays. On espère que cette déclaration pourra constituer donc un cadre juridique solide pour une transition politique véritablement crédible et inclusive, mais c'est évidemment la mise en œuvre correcte de cette déclaration qui comptera vraiment.
La Syrie continue de faire face à plusieurs problèmes.
Les tensions internes du pays posent en effet des questions sur son avenir, mais il y a aussi les sanctions qui avaient été imposées par de nombreuses nations occidentales contre le régime al-Assad. Les autorités syriennes, d'ailleurs, appellent à leur levée totale pour pouvoir relancer l'économie et reconstruire le pays qui a été ravagé pendant les années de guerre civile. Car la situation est particulièrement préoccupante. Selon l'ONU, 90 % des Syriens vivent sous le niveau de la pauvreté. Les infrastructures essentielles, c'est beaucoup ça.
90, oui.
Oui. Les infrastructures essentielles, comme l'électricité ou l'accès à l'eau potable, manquent. Le système éducatif est à l'arrêt. Donc, la fin des sanctions permettrait de délivrer de l'aide, de soutenir les efforts de développement local et, bien sûr, contribuerait à améliorer la situation matérielle de la population. Il faut dire qu'un encouragement en ce sens est venu de l'Union européenne, qui a annoncé fin février la suspension de plusieurs de ses propres sanctions. Une récente conférence de pays donateurs vient aussi d'accorder une aide de 9 milliards de dollars à la Syrie. Évidemment, les États-Unis n'ont rien contribué et maintiennent quant à eux leurs sanctions.
Mais le Canada, lui, vient d'annoncer son intention d'alléger ses sanctions financières et de nommer une ambassadrice pour la Syrie?
Effectivement, on dirait que qu'Ottawa, ça bouge tout à coup. Notre capitale a exprimé son engagement à soutenir une transition politique pacifique et inclusive qui serait dirigée par la Syrie, bien sûr. Les sanctions contre le pays seront assouplies par le Canada pour permettre l'envoi de fonds par l'intermédiaire de certaines banques du pays, telles que la Banque centrale de Syrie. Et c'est l'ambassadrice du Canada au Liban, à Beyrouth, qui va assumer une fonction d'ambassadrice non résidente en Syrie.
Cela dit, la situation reste fragile.
Oui, l'autre obstacle majeur est l'intervention en Syrie d'autres pays de la région. En premier lieu, son voisin israélien, qui cherche à déstabiliser la Syrie et nuire à la Turquie. Parce que la Turquie est apparue comme le grand gagnant lorsque la milice islamiste Hayat Tahrir al-Sham a renversé le régime de Bachar el-Assad début décembre. Depuis, elle s'efforce de consolider le pouvoir du président par intérim el-Shara et, évidemment, veut accroître son influence sur le pays. Mais une Syrie dominée par la Turquie perturbe certains rivaux d'Ankara, au Moyen-Orient, l'Iran et Israël. Israël, d'ailleurs, a étendu son occupation du plateau du Golan syrien en s'emparant d'une nouvelle zone de contrôle de 15 km dans ce qui était autrefois la zone tampon surveillée par les Nations unies entre les deux pays. L'État hébreu a en outre procédé à des centaines de bombardements en Syrie depuis le renversement d'El-Assad sur des cibles civiles et militaires.
Donc, la situation va demeurer instable pour plusieurs mois encore.
Oui. Pour le moment, les nouveaux dirigeants d'Hamas font de leur mieux pour remettre leur pays sur les rails, mais les défis sont énormes, comme on vient de le voir. Il faudra que la communauté internationale appuie cette transition de manière concrète et pas seulement avec de beaux discours. Le passage réussi d'un pays du Moyen-Orient, de la dictature à la démocratie, serait tout un exemple en cette période difficile pour les démocraties dans le monde. Mais on est encore loin, alors que le contexte régional n'en finit pas de sombrer dans la violence et les destructions, comme on le voit d'ailleurs maintenant à Gaza.
Oui, bien triste tout ça.
Oui, mais il y a de l'espoir, je pense, avec la Syrie.
Tant mieux, on va s'accrocher à ça.
Voilà.
Merci, à la prochaine,
au revoir,
M. Larochette.
Merci.